quand je discute avec des amis, quand je leur parle de Dieu, ils me disent souvent « Mais moi, j'ai pas besoin de lui. Je suis très bien là où je suis. De toute façon, j'ai pas fait grand-chose de mal. Je suis quelqu'un de pas trop mal. En termes généraux, je tue personne. » Ça, c'est ce qu'ils disent souvent. J'ai pas volé, en tout cas maintenant, peut-être pas quand j'étais enfant, mais maintenant. Je suis quelqu'un de bien, quand même, pas trop mal. Mais je leur dis, le problème, c'est que Dieu dit pas du tout la même chose. Dieu leur dit que vous l'avez désobéi et vous méritez la mort. Et du coup, là, ça devient un peu plus... des discussions un peu plus houleuses. Pourquoi ? Dieu condamne la désobéissance. À l'ordre général, c'était que l'homme puisse être sous la coupe de Dieu, et Dieu, c'est comme c'est Dieu, dirige ce qui se passe. Je dis, vous n'avez pas voulu de Dieu. Du coup, vous méritez la mort. Mais Dieu, il ne vous laisse pas tout seul. Dieu veut être en relation avec vous. Et Dieu propose que Jésus prenne votre condamnation à mort. Et c'est ce que je voudrais regarder avec vous ce matin, dans Matthieu 27, des versets 1 à 31. Le contexte. Ce que vous avez vu, on est au chapitre 27. Déjà, tout à l'heure, on a aperçu le début du chapitre 26. Et il y a aussi 25 autres chapitres. L'évangile de Matthieu. Matthieu était un collecteur d'impôts. Matthieu parlait beaucoup pour des personnes d'origine juive. L'histoire se passe à Jérusalem. Jérusalem est sous domination romaine. À Rome, on a un gouverneur qui gère Jérusalem, qui s'appelle Pilate. Pilate est là un peu pour faire en sorte que tout se passe bien. Il essaye de régler la vie entre Rome et Jérusalem pour pas trop que ça soit la bagarre. Parce que Jérusalem, les Juifs, veulent aussi avoir leur autorité. Parce que la politique et le religieux n'étaient pas trop dissociés. 1905 n'était pas encore là. Du coup, ça se passe. Voilà, il faut harmoniser tout ça. Donc, Pilate essaie de faire en sorte que tout se passe bien. Les Juifs n'aiment pas Jésus. Les pharisiens, l'autorité juive, n'aiment pas Jésus. Et ils veulent le condamner à mort. Ils veulent le faire tuer. En fait, ils veulent le faire partir. Tout simplement. Du coup, ils vont essayer de trouver des moyens pour le dégager. Au chapitre 26, on voit qu'ils prennent Jésus par ruse et ils vont le juger selon leur tribunal religieux. Mais comme ils sont sous domination romaine, ils ne peuvent pas tuer des gens. Ils doivent trouver un motif de condamnation permettant de l'emmener devant l'empereur, devant le gouverneur, pour que lui puisse le condamner à mort. Et notre chapitre 27, c'est cette partie-là. Jésus qui est devant l'autorité civile, si je peux dire. Alors, on m'a donné la télécommande qui va bien. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, en tout cas je vais lire la même version. Matthieu, chapitre 27, des versets 1 à 31. L'aube s'était levée. L'ensemble des chefs des prêtres et des responsables du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils le firent lier et le conduisirent chez Pilate, le gouverneur, pour le remettre entre ses mains. En voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il alla rapporter aux chefs des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent et leur dit « J'ai péché en livrant un innocent à la mort ». Mais ils lui répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, partit et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et déclarèrent, « On n'a pas le droit de verser cette somme dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. » Ils tinrent donc conseil et décidèrent d'acquérir avec cet argent le champ du potier et d'en faire un cimetière pour les étrangers. Voilà pourquoi ce terrain s'appelle encore de nos jours le champ du sang. Ainsi se réalisa la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, les prix auxquels les descendants d'Israël ont estimé, et les ont donnés pour acheter le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ? » lui demanda-t-il. « Tu le dis toi-même, » répondit Jésus. Mais ensuite, quand les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent l'accuser, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi ? Mais au grand étonnement du gouverneur, Jésus ne répondit pas même sur un seul point. À chaque fête de Pâques, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule désignait. Or, à ce moment-là, il y avait sous le verrou un prisonnier célèbre nommé Barabbas. En voyant la foule rassemblée, Pilate lui demanda donc « Lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ?» Bon, c'est pas grave. En effet, il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit, j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. » Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?»« Barabbas » crièrent-ils. « Mais alors, » insista Pilate, « que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Messie ?» Et tous répondirent « Crucifie-le !» Mais enfin, reprit Pilate, « Qu'a-t-il fait de mal ?» Eux, cependant, criaient de plus en plus fort « Crucifie-le !» Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et devant la foule se lava les mains en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors, Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il le livra pour le crucifier. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements et lui revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui et prenant le roseau, ils le frappèrent à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Voilà notre texte. C'est assez surprenant de voir que Jésus ne se plaint jamais. On ne sait jamais ce que Jésus ressent. Il se fait battre, fouetter. Jamais on entend une parole de Jésus dire « Aïe, j'ai mal !» Il le dirait un peu autrement. Jamais Jésus se plaint. Pourtant, c'est bien lui qui est au centre de l'histoire. C'est quand même son procès, quelque part. Mais jamais il dit quelque chose. En revanche, on constate que Pilate, Judas, la femme de Pilate, affirme qu'il est innocent. Et de l'autre côté, on a les chefs religieux qui affirment qu'il faut le tuer. Mais le texte nous dit qu'ils sont tous coupables et ils méritent la mort. Jésus se laisse faire parce qu'il a une mission à accomplir. C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble. Il n'y aura pas plus de slides. Tout le monde proclame l'innocence de Jésus. Judas est pris de remords. Il va se pendre parce qu'il a vu qu'il a été trop loin et qu'il a livré un innocent. Judas, au bout d'un moment, va revoir les pharisiens, les chefs religieux, va leur dire « Voilà votre argent. En fait, non, j'ai fait une bêtise. Je veux revenir dessus. » Mais les chefs religieux, rien à faire. Ce qui leur intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'argent. Judas, pris de remords, culpabilité, il va se pendre. Judas proclame l'innocence de Jésus. Pilate aussi nous affirme que Jésus est innocent. Je vous ai dit tout à l'heure que les religieux devaient trouver un motif valable pour faire condamner à mort Jésus. Et le motif qu'ils ont trouvé, c'est de dire que Jésus était le roi des Juifs. C'est pourquoi Pilate va demander à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus, de manière très succincte, il va le dire au verset 11. « Tu le dis toi-même. » Alors, est-ce que Jésus lui dit « Ok, ben, moi j'en sais rien, décide avec ta tête. Est-ce que je suis le roi des Juifs ?»« Moi, je ne sais pas. » c'est toi qui vas voir. Non, Jésus, quand il lui dit, tu le dis toi-même, Jésus lui dit, tu l'as dit, tu l'as déclaré de ta bouche, et maintenant, tu es responsable de la décision que tu vas prendre. Et après, Jésus ne dit plus rien. Pilate va insister pour savoir s'il est innocent. Il va dire, mais tu n'entends pas, les chefs religieux, ils t'accusent, tu ne te défends pas, tu dis rien. Jésus ne dit rien. Pilate le dit, le texte nous dit que Pilate s'est rendu compte que les chefs religieux l'accusaient par jalousie. Pilate s'est rendu compte que c'était par pure jalousie qu'il voulait tuer Jésus, et pas un vrai motif, parce qu'il déclarait roi des Juifs. Du coup, Pilate va leur proposer un deal. De manière très simple, il va leur dire, je vous propose de vous relâcher Barabbas, de vous relâcher Jésus, et de garder Barabbas. Mais les Juifs, rien à faire. Pourtant, Barabbas, c'était quelqu'un, le texte nous dit que c'était un fameux, il était connu. Ouais. Luc, l'évangile selon Luc, nous dit que c'était un meurtrier, un émeutier. Voilà. Ce n'était pas non plus un petit délinquant, hein. Il a quand même tué quelqu'un, il a voulu faire un coup d'État, et ils veulent quand même relâcher ce type, alors que Jésus, a priori, n'a encore rien fait. Le deal ne fonctionne pas. Le peuple crie toujours de plus en plus fort, « Crucifie-le !» Au final, on a Jésus, l'innocent, qui devait être libre, et substitué à Barabbas, le coupable, qui doit être crucifié. Barabbas, le coupable, le meurtrier, se retrouve libre, car l'innocent, Jésus, le juste, a pris sa condamnation. Cette substitution préfigure la substitution finale pour nous. Je reviendrai plus tard là-dessus. J'insiste, la femme de Pilate aussi déclare qu'il est innocent. Elle fait parvenir un court message de service ou un SMS à son mari en lui disant « J'ai eu un rêve, il est innocent ». Mais il continue. Il l'écoute, enfin il l'entend, mais il ne prend pas en compte ce que sa femme lui dit. Ce n'est pas une application. Hein. Voilà. Sa femme, à Pilate, déclare aussi qu'il est innocent. Mais Pilate, dans le texte, a 5 tentatives, essaie que Jésus se défende, mais il dit rien. Et Pilate décide du coup de se laver les mains en disant « Je ne suis pas responsable du sang de cet innocent » ou « De la mort de cet innocent » selon la traduction. Judas, Pilate et sa femme déclarent tous que Jésus est innocent. Jésus va subir des injustices morales et physiques, ce qui va renforcer sa... Ouais, alors je ne vais pas dire sous mot souffrance, parce que je ne vais pas parler d'émotion, mais qui renforce le côté injuste. Il va subir des actions qui sont injustes. Les chefs des prêtres ont préféré Barabbas. La foule a préféré Barabbas. Les gardes se moquent de lui en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Ou plus tard, au verset 40, ils vont lui dire « Et toi qui as dit qu'il démolirait le temple en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es descends de la croix, si tu es le fils de Dieu. » Judas l'a renié. Au chapitre 26, Pierre l'a aussi abandonné. Jésus se retrouve seul. Mais Jésus ne dit encore rien. Il va subir des injustices physiques. On voit au verset 2 qu'il est lié pour être emmené devant Pilate. On l'a battu à coups de fouet, traîné à l'intérieur du palais. On lui arrache ses vêtements, on lui met une couronne de rameaux épineux autour de la tête comme une créature de la royauté. On le frappe à la tête, on lui crache dessus. Et encore plein d'autres choses qui ne nous est pas rapportées dans ce texte. Mais toujours, Jésus, on ne sait rien ce qu'il ressent. Ils sont tous coupables. Judas est coupable, et on l'a vu. Il n'a pas supporté le poids de sa faute. Il va se pendre. Il a préféré l'argent à Jésus. il va se pendre. L'apôtre Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort. Très bien, Judas a payé pour sa faute, il est mort. Les chefs des prêtres sont aussi coupables. Quand Judas rapporte l'argent, leur seule préoccupation, ils n'ont même pas réfléchi 5 minutes, hein. Enfin, en tout cas, dans le texte, on n'a pas l'impression. Ils se disent directement, mais qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? On ne peut pas le remettre dans le temple. Mais mince, qu'est-ce qu'on va en faire? On aurait s'embêté, là. Enfin, ils le disent peut-être un peu plus violemment, parce qu'ils ont l'air un peu plus agressifs. Mais... La culpabilité de Judas ne les remet pas en cause. On a vu qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux de Jésus. Ils ne veulent pas que Jésus soit la star. C'est eux la star du pays. Parce que Jésus faisait déjà des miracles, la foule le suivait pour son enseignement, et du coup se détournait un peu plus d'eux, peut-être. Ils se disent, mince. Ils ont préféré tuer Jésus par jalousie. Pilate est aussi coupable. Il veut se laver les mains. Il dit qu'il se lave les mains. Mais il est aussi coupable. C'est quand même lui qui a donné la sentence à Jésus. C'est quand même lui qui était le gouverneur à Jérusalem. Il aurait pu très bien envoyer quelques cohortes, quelques bus de CRS pour calmer l'agitation. Ça se fait très bien en France, hein. Quand quelque chose ne va pas, on envoie des CRS, comme ça ils canalisent. Mais Pilate aurait très bien pu faire ça, envoyer quelques gardes pour canaliser la foule. Ce n'est pas quelques juifs qui vont faire peur à une armée romaine, le temps que d'autres arrivent. Mais Pilate a préféré leur donner Jésus, enfin faire tuer Jésus, parce qu'il voulait garder son poste, il voulait maintenir une stabilité pour son ambition politique. Si vous lisez d'autres textes qui parlent de Pilate, vous verrez que Pilate est quelqu'un de comme ça, hein, c'est un caméléon, et il va où on l'emporte, où il est opportuniste. Et là, on le voit encore dans ce texte. Le peuple est d'une manière aussi coupable. C'est vrai que, je le disais tout à l'heure, l'autorité religieuse et civile sont assez mêlées, et que du coup, si le peuple ne suivait pas l'autorité religieuse, ils étaient un peu bannis du monde civil. Mais quand même, le peuple qui a dit à Pilate que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants. Ce n'est pas a priori les chefs qui leur ont dit de dire ça. Ils l'ont dit d'eux-mêmes. Le peuple connaît la loi de Dieu. Ils savent que Dieu réclamera le sang de tout homme qui aura versé le sang d'un autre. Genèse 9, 5. Mais le peuple a plus peur des religieux que de Dieu. Ils savent que Dieu va leur réclamer le sang. Mais ce qui les intéresse aussi pour le moment, c'est leur vie tout de suite maintenant et pas ce qui va se passer plus tard. Et du coup, ils vont être aussi un peu lâches quelque part, d'une certaine manière, et vont faire crucifier Jésus. Tous sont coupables, soit par cupidité, soit par jalousie, soit par orgueil, soit par lâcheté. Mais la question, pourquoi Jésus ne dit rien depuis le début? Jésus avait conscience de sa mission. Il était venu pour une mission précise. Si vous lisez un peu les évangiles, déjà en Matthieu chapitre 16, il est rapporté que Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Un peu plus tard, Matthieu 20, 18-19, Jésus qui dit « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme, donc en parlant de lui, sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens, à Rome, pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent, le crucifient, et le troisième jour, les ressuscitera. » Déjà, Jésus disait ça. Encore une fois, si vous survolez les évangiles, Jésus va dire souvent « Mon heure n'est pas encore venue » ou « Mon heure est venue » ou encore Matthieu 26, 24 « Le Fils de l'homme s'en va » quand il parlera de sa mort. Et puis, il y a aussi des paraboles qui parlent qui sera la pierre rejetée, des histoires que Jésus rapporte, la parabole du vigneron. Jésus savait tout ça. Jésus savait qu'on allait se moquer de lui, qu'on allait le flageller, qu'on allait le crucifier. Mais il y va quand même. Jésus n'a pas subi sa condamnation. C'est Jésus lui-même qui s'est livré à la mort, alors qu'il était innocent, justement pour rétablir la relation que je parlais tout à l'heure avec, du peuple avec Dieu, de nous avec Dieu. Si vous voulez aller plus loin, vous pourrez lire un texte de l'Ancien Testament qui s'appelle Ésaïe 53. Vous verrez un peu tout ce que Jésus a subi et ça vous permettra de réfléchir aussi au sort de Jésus. Quelle est la mission de Jésus? La mission, c'est la dernière que Dieu envoie. C'est une mission sauvetage. Sa mission, c'est de rétablir la relation entre Dieu et les hommes, entre Dieu le Père et nous. Nous voyons dans ce texte, par l'intermédiaire de Judas, de Pilate, du peuple, de la foule, de Pierre, alors on ne l'a pas lu, mais j'en ai un peu parlé, ils ont tous recherché leur intérêt. Ils ont tous délaissé Dieu à cause de leur ambition, à cause de l'argent, à cause de leur orgueil. Ces personnes nous représentent quelque part. Mais en revanche, on voit que Dieu recherche l'intérêt des hommes et non le sien avant tout. Dieu propose la vie éternelle à tous les hommes par l'intermédiaire de Jésus. Jésus, qui est Dieu, est venu sur cette terre prendre la condition humaine pour prendre la condamnation humaine, notre condamnation. Cette condamnation que je vous ai énoncée tout à l'heure, c'est simplement la mort. Mais dans son amour, Dieu offre la possibilité à tous ceux qui le souhaitent que Jésus soit leur substitut devant le tribunal divin. Par conséquent, ça sera Jésus le juste qui prendra la condamnation à notre place. Et c'est l'image qu'on a vue tout à l'heure avec Barabbas et Jésus. Barabbas était coupable. Il avait fait des choses mal et il devait être condamné à mort. Alors, Jésus a pris sa condamnation et Barabbas est devenu libre. En tout cas, Pilate a fait en sorte que Jésus prenne la place de Barabbas et Barabbas est devenu libre. C'est ce qui se passe pour nous, pour la substitution. Pour tous ceux qui le souhaitent, Dieu propose, c'est toi qui dois être crucifié sur ce bois, mais maintenant, je te propose que Jésus prenne ta place, se substitue à toi, qu'il y ait un échange. Ce qui fait que tu es juste, tu es libre, et tu peux avoir la vie éternelle, la mort, la vie éternelle. Voilà, l'histoire de Barabbas, voilà ce que ça nous montre, voilà l'exemple que ça peut montrer. Dieu, plus tard, lorsqu'il jugera tout le monde, regardera si on a notre substitut ou pas. Et regardera qui va prendre la condamnation à mort. Judas, Pilate et sa femme ont tous proclamé l'innocence de Jésus. Mais ils sont tous coupables et l'ont fait crucifier. Pilate, les religieux, la foule ont recherché leur intérêt à tel point qu'ils ont fait tuer un innocent, un juste. Mais Jésus savait pourquoi il devait mourir. Il savait qu'il était là pour accomplir une mission. Jésus était venu à Jérusalem pour révéler l'injustice des hommes, la justice et l'amour de Dieu. Un théologien dit que la croix, c'est le point culminant de la rencontre entre l'amour de Dieu avec la méchanceté humaine. La croix montre l'injustice des hommes. Et la croix montre la justice de Dieu. Ça sera la suite du chapitre un peu plus tard. Qu'aurions-nous fait à la place de la foule, de Pilate, du peuple? On se croit pas si méchant que ça. Mais en fait, à tout moment, on recherche aussi nos intérêts, et non ceux de Dieu ou des autres. Combien de fois par jour ça vous arrive de rechercher vos intérêts et non ceux de Dieu ou des autres? Il y a un jeu que je suis assez fort. C'est le jeu du « Ah oui, tu veux jouer au con ?» Là, je suis très très fort pour ça. Et je reste juste, hein, parce que je ne vais pas faire d'injustice. Je vais être tellement juste et amer, ou en tout cas, voilà, pour avoir raison et pour rechercher mes intérêts, que je vais oublier ceux des autres. Hélène connaît très bien comment je suis. Quelqu'un, quand ça va, voilà, je suis froid, juste, je ne veux pas avoir une parole, je ne veux pas hausser la voix, je ne veux pas râler, gueuler, mais je vais être très bête. En fait, ce jeu-là, c'est qui veut jouer au plus orgueilleux? Lequel des deux va vouloir s'abandonner en premier? Rechercher l'intérêt de l'autre en premier? Ou ne pas vouloir rechercher l'intérêt de l'autre en premier? Ça se passe aussi au travail. Votre chef, parce que les chefs sont toujours bêtes, et du coup, quand il va vous dire quelque chose, oui, bien sûr, voilà, voilà. Et après, vous allez être juste, mais aussi quelqu'un de froid, et vous, ok, tu veux être comme ça? Ok, je vais être comme ça. Tu veux pas me donner mes vacances? Ok, on va faire comme ça. Ça se passe comme ça très souvent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être juste. J'ai juste que quels intérêts on recherche avant tout? Est-ce qu'on recherche à proclamer, à manifester l'amour de Dieu? Ou à manifester notre amour propre, notre orgueil plutôt? Un autre théologien du début du XXe siècle, qui s'appelle John Stott, il écrit que nous ne sommes pas différents de Judas, de Pilate et de la foule. Nous sacrifions Jésus sur l'autel de notre cupidité, comme Judas, ou sur celui de notre jalousie, comme les prêtres, ou sur celui de nos ambitions, comme Pilate. Je suis désolé de vous dire ça, mais nous sommes bel et bien pécheurs. Nous méritons tous la mort. Mais Dieu nous offre la grâce d'avoir la vie éternelle par son Fils Jésus. Si vous n'avez pas encore accepté que Jésus soit votre substitut à la croix, alors je vous propose de reconsidérer la question avant qu'il soit trop tard. Au contraire, si vous l'avez accepté, un peu comme on a vu tout à l'heure, dans quel domaine je dois progresser pour laisser mon orgueil de côté, pour être d'une odeur agréable à Dieu? Comment réellement se manifeste ma reconnaissance à l'égard de Dieu, à l'égard de son sacrifice? On a vu quand même qu'il a pas mal souffert des souffrances injustes. Il n'a rien dit pour nous. Comment je suis reconnaissant? Je vous lis un extrait de Isaïe 53 pour appuyer ce que Jésus a subi. Jésus, donc il parle d'un serviteur, donc il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos douleurs qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteinte d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant ce texte qui nous rappelle que ton Fils a subi des injustices, qu'il est mort, qu'il a souffert à cause de nous. Notre Père, nous voulons ne pas oublier tout ce qu'il a subi à cause de nous. Nous voulons nous rappeler que c'est nous qui devions mourir sur cette croix. Père, pardonne-nous de notre manque de reconnaissance, de notre manque d'humilité. Pardonne-nous de notre orgueil. Seigneur, nous voulons relancer cette semaine en pensant à toi, en regardant plus à toi, en recherchant plus les intérêts de ton royaume que du nôtre. Seigneur, nous voulons reconsidérer notre engagement ou considérer cet engagement pour que ce soit toi qui sois la star et pas nous. Amen.